En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.
À voix nue. Cette semaine, Émilie Aubry rencontre Valérie Lemercier, femme drôle avec sérieux. Ce soir, être ou ne pas être une actrice populaire.
Bonsoir Valérie Lemercier.
Bonsoir Émilie.
Troisième épisode de cette folle semaine d'À voix nue avec vous. Lundi, vous nous avez raconté comment vous aviez découvert la place que le rire allait avoir dans votre vie. Et puis hier, on a parlé de votre rapport à la scène, au spectacle, au One Woman Show, avec l'importance de l'écriture. Aujourd'hui, on va parler de votre carrière au cinéma en tant qu'actrice. Et puis demain, on parlera de quand vous êtes derrière la caméra. Alors pour commencer, je voulais vous parler d'une chanson de Céline Dion que vous aimez sans doute beaucoup, puisque vous l'avez mise à la fin de votre dernier film, Aline. C'est une chanson qui s'appelle « Ordinaire, je suis une chanteuse populaire ». Et à un moment, la chanson, ça dit ça. « J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal de la critique. Quand je chante, c'est pour le public. » Ça dit quoi de vous, cette chanson que vous avez mise en séquence finale du film ?
Bah, d'abord, c'est la chanson qui ouvre le film et qui le clôt. Donc c'était très sûr, je savais le début, je savais la première scène et je savais la dernière, après j'ai rempli.
À la fin, on l'a vraiment en entier, donc on peut vraiment écouter les paroles.
À la fin, on l'a en
paroles.
Entier et on l'a surtout par elle. Et la Mouffe, qui a écrit les paroles pour Charles Bois, a changé les paroles pour Céline. C'est une chanson qu'elle devait chanter depuis longtemps, mais c'est une chanson de la maturité. C'est une chanson qu'on ne peut pas chanter jeune. C'est une chanson qu'elle a chantée elle-même dans son dernier disque français à 45-46 ans. Donc c'est une chanson un peu de maturité et c'est une chanson qui dit qui elle est. Et quand Charles Bois chante, je m'en fous pas mal de la critique, il dit ce sont des ratés sympathiques. Et pour Céline, elle ne pouvait pas dire ça. Donc il lui a fait dire quand je chante, c'est pour le public. Les paroles pour elle sont très bien. C'est très bien adapté et c'était important parce que c'est d'ailleurs la seule chanson qu'elle chante avec un léger accent québécois et des expressions québécoises forcées un petit peu. Et c'est une chanson qui dit qui elle est. Donc j'adore cette chanson, j'adore comment elle la chante.
Elle est très émouvante. Mais ça dit quoi de vous ? Est-ce que ça dit aussi que ça vous va très bien, au fond, cette identité d'actrice populaire ?
Ah oui ?
Que vous ne cherchez pas à raconter autre chose ?
Non, ça me plaît beaucoup. Ça, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, être une actrice populaire ?
Ça veut dire faire partie un petit peu de l'univers des gens, de faire partie un peu de leur appartenir.
Ça veut dire aussi jouer dans des films qui rencontrent un vrai succès, qui...
Mais ça, c'est une question de chance ou une question de... On n'y peut pas grand-chose quand on est actrice, on ne sait pas dans quoi on...
On ne sait pas si ça va marcher.
Non, on ne sait pas.
Alors, ce qui est amusant dans votre cas, et je pense que plein de gens l'ignorent, c'est que votre premier film ne fut pas du tout une comédie populaire. Et d'ailleurs, c'est assez chic. La première fois que vous avez joué au cinéma, c'était pour Louis Malle, c'est ça ?
Oui, j'avais 23 ans. Et en fait, il m'avait vu dans Palace, il pensait que j'avais 50 ans, et il m'a fait venir, et il a vu que j'avais 23 ans, donc il m'a dit, non, retournez chez vous, je vais trouver quelqu'un d'autre.
C'était pour Milou en mai.
C'était pour Milou en mai.
Qui raconte une dispute au sein d'une famille bourgeoise de province.
Voilà, et moi, je suis une voisine chasseuse, et j'ai un mari âgé, et je suis moi-même âgée. J'étais avec Catherine Le Terrier dans les locaux de chez Traounouez où on se cherchait un costume. Et quand on a trouvé ce costume, ce tailleur pantalon avec ce chapeau, je me souviens, ça la faisait beaucoup rire et moi aussi. J'étais contente, j'avais trouvé un costume. Donc après, une fois qu'on a le costume, tout va bien, encore une fois. Et il y avait surtout Bruno Carrette et il y avait Miu Miu et il y avait... donc j'ai aussi...
Et Michel Piccoli.
Michel Piccoli. Et je me souviens parce que c'était avant... C'était avant Un fil à la pâte et il y avait Dominique Blanc qui était là et puis je lui dis, je suis contente, je vais jouer dans un Phédo au théâtre du Palais Royal. Elle m'avait dit, tu as choisi ton camp, tu vas jouer dans le théâtre privé. Et je connaissais pas, moi, le camp qu'il fallait choisir. Mais en l'occurrence, oui, elle avait raison, j'avais choisi. C'était là que j'ai démarré et c'était donc du théâtre populaire et c'était ce qu'on appelle du théâtre privé. C'était grand public, on va dire. Mais Phédo, c'est génial que ce soit... Enfin voilà, c'est... quand c'est drôle, on s'en fout que ce soit... Ça veut pas dire que c'est
bête. Que ce soit un télo populaire, on s'en fout.
Bah, oui.
Quand vous avez joué pour Louis Malle, c'est un bon souvenir, ce premier tournage, cette première expérience du cinéma?
Oui, parce que j'adore les acteurs, et donc j'ai connu Hubert Saint-Macary, François Berléand, Miu Miu, Bruno Carrette. Donc on rigolait beaucoup, on se faisait un peu engueuler, mais... c'était marrant.
Et donc, vous étiez une jeune fille de 23 ans qui jouait un rôle
oui,
de grande bourgeoise
dit,
de 53 ans.
Il m'avait dit non, et puis il n'a pas trouvé. Il a cherché ailleurs, il n'a pas trouvé, donc il m'a rappelé pour me donner ce rôle. Voilà. Donc,
ça ne vous faisait pas peur à l'époque, à 23 ans, de vous dire je suis en train de me laisser enfermer dans un rôle constant, permanent, récurrent, mais de vieille bourgeoise
savez,
ou de vieille aristo?
Je ne me sens absolument pas enfermée, dans le sens où c'était au contraire du travail, et je faisais mon métier enfin. Donc comment on peut dire qu'on est enfermé? Je suis pas enfermée. Et d'ailleurs ces grandes bourgeoises là, j'aime toujours un peu les jouer, et j'en ai même dans mon spectacle, j'ai pas pu m'empêcher d'y retourner un peu alors que j'avais abandonné, mais parce que ça me fait rire, parce que ça, donc je ne m'y sens pas, ou alors je m'y enferme moi-même, j'en sais rien, mais
comment... C'est un enfermement qui vous rend très heureuse.
Oh bah oui, je suis pas du tout enfermée. Et puis si les gens, ça leur plaît, bah non, je suis pas enfermée là-dedans.
Mais ça les étonnait pas, les autres actrices? Je sais pas, je pense à une Miu Miu par exemple, qui a eu une toute autre gestion de sa carrière.
Bah, enfin, elle a quand même commencé avec Coluche, et c'est d'ailleurs lui qui lui a donné son nom. Elle a d'abord énormément de fantaisie, et c'était sûrement la plus drôle de toutes. Donc ça l'a pas surprise, et je me suis très bien entendue avec elle tout de suite, parce qu'elle adore rire, elle a l'œil très rieur, on avait beaucoup de fou rire, et avec Bruno Carrette, et avec, donc c'est le...
Alors un mot sur Bruno Carrette peut-être, je crois que c'est le dernier film dans lequel il a joué, il était déjà malade, donc l'un des
oui.
membres fondateurs des Nuls,
ben oui,
c'est vraiment l'humour
idoles.
Des années 90 qui nous ont
idoles.
Tous fait hurler de
ils
rire.
Ils ont su faire, une fois on m'avait demandé pour un papier sur eux, je pense que c'est ça, ils faisaient du private joke grand public. Et c'est un peu ça, et c'était les trucs les plus absurdes, ou quand on faisait Odeline Fion et tout ça, c'était mes idoles. Je les regardais tous les samedis religieusement, c'était, et voilà, après quand ils m'ont demandé de venir avec eux faire quelques
sketchs. Vous avez très régulièrement travaillé avec eux. C'était
ouais.
un peu comme une sorte d'école ou de conservatoire, c'était le conservatoire des nuls?
Bah oui, c'était, bah oui, puis c'était en public, c'était en direct. C'est ça qui était génial, c'est que, on se lançait, on savait à peine d'ailleurs notre... Enfin voilà, c'était tellement frais, mais on y allait et ça marchait, donc c'était marrant.
Qu'est-ce qu'on apprend avec les nuls? C'est quoi l'école des nuls?
On aime bien les conneries, on aime bien en faire, on en dire. Alain Chabat, il aime beaucoup l'absurde, il aime beaucoup... enfin, pour l'absurde, je dis ça, je n'aime pas spécialement l'absurde, mais... c'était des gens, ou Chantal Lobby, ou c'est des gens, je me suis tout de suite sentie très très bien avec
eux. Ça veut dire rire de la même chose, en fait.
Oui, je me suis me sentais très très bien avec eux, parce qu'ils étaient clients, voilà. J'ai eu une seule fois, je déteste rire sur scène de mes conneries, parce que je suis toujours très sérieuse quand je joue, évidemment, et je déteste les fous rires sur scène. Mais un jour, j'ai entendu Alain, dans la salle, rire d'un tout petit truc qui faisait jamais rire personne. Et là, j'étais assise, malheureusement, c'est ça qu'il faut faire quand on a un fou rire, c'est il faut se déplacer. Vite, se déplacer de 50 cm et on n'est plus dans le même...
Ça marche.
Ça marche. Et là, je ne pouvais pas, parce que j'étais assise sur un espèce de truc très haut, je ne pouvais pas bouger, et je l'ai entendu rire à un truc qui, moi, me faisait... Il y a plein de choses dans tous mes spectacles, il y a des choses, parfois ça marche, mais il y a des trucs, je ne l'avais pas enlevé pour autant, mais il y a un tout petit détail qui l'avait fait rire, et il était tout seul à rire dans cette grande salle.
Et là, c'était foutu.
Bah ouais. Et voilà. Et là, je suis tombée. J'ai ri. Les gens aiment ça, hein, mais moi, j'aime pas.
Parce que ça sort du contrôle
voilà,
et du cadre.
Ouais.
Dans un tout autre registre, Louis Malle, sur un tournage, il était comment? Qu'est-ce qui vous a appris, Louis Malle?
Bah, c'était sérieux. Nous, on était un peu les enfants terribles, en fait. Et puis lui, bah, le pauvre, c'est pas facile hein, de faire un film. Donc. Je me souviens de François Berléand qui était arrivé sur le plateau. On nous avait fait faire des t-shirts Milou en mai. C'était des t-shirts pour l'équipe. Et il arrivait pour tourner avec le t-shirt Milou en mai que Louis Malle n'avait pas vu. Mais je trouvais ça tellement drôle. Un acteur qui a le t-shirt du film qui est en train de jouer. Moi, mais c'était des gens très facétieux. C'était des gens comme François Berléand ou Bruno Carrette ou Miu Miu. On rigolait beaucoup.
Et Michel Piccoli, c'est pas rien de jouer avec Michel Piccoli.
Mais Michel Piccoli, il était très sérieux.
Mm. Vous avez parlé avec lui, vous avez des souvenirs d'échanges, de conversations de...
Non, pas du tout. Mm. Il y avait des petits jumeaux qui disaient, ils avaient l'accent de Montpellier, ils disaient « Michel Piccoli, tu nous fais chier !» Je me souviens. Il y avait les sérieux et les pas sérieux, je faisais partie des autres.
Enfin,
des
on n'est pas surpris. Alors on va parler maintenant de vos rôles dans ces films très populaires, ces énormes succès du box-office. Et bien sûr, il y a Les Visiteurs, 1993, près de 14 millions d'entrées, c'est colossal.
Mais vous savez, à l'époque, on ne parlait pas du tout de chiffres, beaucoup moins que maintenant. C'est d'ailleurs un film qui a démarré doucement. C'est après que les gens se sont emparés du film et sont retournés le voir. En fait, les films qui font tant d'entrées, c'est que les gens y vont plusieurs fois. Mais on s'en rendait à peine compte. Enfin, je veux dire, alors évidemment, après coup, quand on m'appelle Jacouille dans la rue, c'est comme ça qu'on m'appelle, même si je ne joue pas le rôle de Jacouille.
À l'époque, vous êtes Béatrice de Montmirail, oui, mais, vous freinez mais, compte
mais,
de couilles.
Ça m'est encore arrivé. J'étais à Lyon au Festival des Lumières. Ah, c'est Jacouille, voilà. Pour faire des raccourcis, voilà, parfois on m'appelle Jacouille, ce qui n'est pas moi. Mais en tout cas, j'avais déjà fait l'opération Cornet Beef. Jean-Marie Poiret m'avait vu au théâtre du Palais Royal avec Clavier et Martin Lamotte, m'avait repéré là, m'avait donné un rôle dans Cornet Beef. On était les mêmes, quasi. Et puis ils en ont fait un autre après qui a beaucoup plus fonctionné, qui était donc Les Visiteurs.
Ou c'est une nouvelle version quoi, de Lady Palace ou de la grande bourgeoise de la Renardière, où vous étiez en terrain familier, en terrain
voilà, commun. La culotte, le foulard, le chemisier Hermès, la coupe au carré, le serre-tête, surtout la jupe culotte.
Hein. Et de nouveau très snob
et de
capable
nouveau Catherine
de
Le Terrier qui fait les costumes et qui m'a trouvé la bonne jupe culotte en jean très sympa. Voilà.
Comment vous faites malgré tout pour renouveler le personnage, pour ne pas avoir toujours la même voix? C'est pas exactement la même voix que Lady Palace, c'est pas exactement
pas du tout la
personnage.
Même voix que Lady Palace, pas du tout. Ah non 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 non, bah non, c'est une autre, c'est la femme du dentiste, c'est non non, c'est pas la même. Il y a des petites nuances.
Vous pourriez me les expliquer ces petites nuances?
Ah ben non, c'est pas la même parce que c'est non non, c'est pas alors il y a peut-être des petites intonations qui sont oui, puis la voix de toute façon, c'est très c'est comme ça qu'on, si vous faites faire toute la tête, tout le, la voix, elle sera toujours la même. Il y a quelque chose de, donc c'était pas du tout un tournage heureux.
Oui, vous l'avez beaucoup dit, ça, c'est un tournage dont vous avez un très mauvais souvenir.
Oui, mais parce que c'est difficile et parce qu'il voulait que ce soit bien et qu'il n'était pas content, Jean-Marie Poiret, de moi.
Pourquoi il n'était pas content de vous, Jean-Marie Poiret?
Ben parce que je l'avais beaucoup amusé pendant le film d'avant et puis sur celui-là, probablement j'avais peut-être pris un petit melon d'avoir joué toute seule pendant 9 mois. J'étais peut-être moins docile, je ne sais pas.
C'est vrai que c'est compliqué sans doute ces alternances entre être seul sur scène dans un one-man show dont on a tout conçu, on maîtrise toute la machine,
oui,
et d'un coup de s'insérer dans une grosse production comme ça.
Et en même temps, il me disait, qu'est-ce qui se passe? Il venait me voir le soir, il me disait, tu n'es pas drôle, la monteuse qui voit les images, voilà, j'entendais la maquilleuse de Clavier qui me disait que j'étais pas drôle, enfin, j'entendais tout le monde me dire que j'étais pas drôle, mais il se trouve que c'est un personnage qui ça ne se voit pas trop qu'elle est drôle. C'est pas parce qu'on fait pas rire tout le monde sur le plateau.
Elle est drôle malgré elle.
Oui, et puis aussi on a refait des scènes qui étaient ratées et donc on les a peut-être plus réussies la deuxième fois et voilà, ça n'a pas été facile, ce que je veux dire, parce qu'il fallait. Ce que je veux dire, c'est comme il jouait des trucs incroyables, c'était une histoire incroyable, et moi j'étais la normale du film, puisque c'est par des gens normaux qu'on arrive à faire croire qu'il y a quelqu'un qui arrive d'un autre siècle et qui vient. Et comme la fille, elle trouve ça normal, bah, tout le monde peut trouver ça normal. Ce que je veux dire, moi, j'étais celle par qui on pouvait croire à l'histoire. Donc, j'étais la normale, la pied sur terre. Je venais pas, moi, d'un autre temps. Je n'étais pas, un Jacouille qui arrivait du Moyen-Âge. J'étais la femme j'étais super normale. Mère de famille, femme de dentiste. Donc, ça se voyait pas beaucoup d'abord sur le tournage. Et j'avais honte, moi, de tout ce que j'avais fait dans le film. Et un jour, il y a le directeur de production qui m'a appelé. Il m'a dit, je viens de voir le film. En fait, t'es bien dedans. Ah bon? J'ai dit, t'es sûre? Parce que j'étais sûre que j'allais m'enterrer, là, avec, que ça allait être la honte quand le film allait sortir.
Vous aimez bien vous insérer dans ces grosses super productions qui ont vocation à donner lieu à des gros succès. Par exemple, quand vous faites Astérix, autre gros succès populaire, que vous êtes Miss McIntosh, que vous jouez avec Édouard Baird, avec Depardieu, avec Deneuve, vous aimez ça aussi?
Mais vous savez, j'avais fait avant deux films de Laurent Tirard qui ont quitté le petit Nicolas, les deux, qui ont eu d'ailleurs plus de succès qu'Astérix. C'est finalement Miss McIntosh. Et Anne Goscinny, elle ne voulait pas que je joue ce rôle parce qu'elle pensait que pour le public enfantin, j'étais à jamais la mère du petit Nicolas et que je ne pourrais jamais être... Donc j'ai passé des essais à mon âge, très bien. Je me souviens, j'ai dû passer des essais pour jouer ça, pour être prise, parce que la fille de l'auteur pensait que je ne devais pas le faire. Donc j'ai dû faire mes preuves et voilà, j'ai essayé de trouver un accent. J'ai une amie, Natasha Fraser, qui est très chic, qui est une anglaise, une journaliste, qui m'a donné quelques tuyaux, parce que finalement, de voix d'accent anglais, la reine d'Angleterre, elle n'en a pas d'accent. Jane Birkin, on ne va pas tous faire Jane Birkin, on était tous des gens pas anglais qui devions jouer des anglais. Donc, il y avait Petula Clark qu'on connaissait, Jane Birkin, et au-delà de ça, j'en connaissais pas.
Et alors, vous avez trouvé une autre référence?
Donc, j'ai trouvé une autre référence, j'ai bu le thé avec Natacha, je l'ai enregistré, et j'ai fait des tutes bien, c'est tutes bien. Donc, j'ai trouvé un petit peu mon accent pour essayer d'en avoir
comme
un.
Comme une musicienne, en fait, pour que ça sonne juste.
Voilà.
Pour que ça sonne juste. Alors, dans votre histoire, je me dis aussi que la rencontre avec Étienne Chatiliez, et notamment lorsque vous jouez pour lui Agathe Cléry en 2008, elle a dû être importante parce que, comme vous, il vient de la publicité. En fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'avant de réaliser vos films, on en parlera demain, vous avez réalisé, je crois, près de 40 spots.
Oui.
La publicité, qu'est-ce que ça...
Ça m'a appris. Ça, c'est vraiment un tournage. C'est comme un film en miniature, avec en plus des exigences d'efficacité. On doit être compris en 15 secondes, 30 secondes. Donc on a à faire, parfois écrire, ça m'est arrivé sur beaucoup de films de publicitaires, trouver des acteurs pour les jouer, monter, ce que j'avais jamais fait, réaliser, faire rire, puisque c'était des comédies. Tout ça rapidement, et avec en plus des clients qui vous disent « Est-ce que ce t-shirt gris, il ne faut pas qu'il soit bleu ciel ?» Et est-ce que... Avec beaucoup de cadres, avec énormément de... Donc j'ai commencé par des publicités pour le Tac au Tac, et puis après j'en ai fait d'autres, et voilà, j'en ai fait... Il y a un moment, je ne jouais pas, et j'ai fait beaucoup de publicités. Ce qui m'a appris mon métier de réalisateur, actrice, et pour moi, c'est probablement une meilleure école que de faire des courts-métrages. Parce qu'il y a un message, il y a quelque chose à dire, et on doit être efficace.
C'était important pour vous ce rôle d'Agathe Cléry avec le film d'Étienne Chatiliez? Est-ce que vous avez eu le sentiment à ce moment-là de, pas de faire du cinéma engagé, mais enfin de délivrer un message? Rappeler Agathe Cléry, c'est l'histoire d'une dame encore assez bourgeoise, un peu raciste.
Elle est blanche, elle est raciste, elle va devenir noire, c'était le sous-titre. Oui, ça m'amusait. Là aussi, j'ai passé des essais avec plusieurs comédiennes. On a passé des essais pour être le personnage. Je suis en plus physiquement à peu près le contraire d'une femme noire. Non pas que je sois... D'abord, je suis très blanche, mais j'ai un nez pointu. Enfin bon, je veux dire, j'ai une petite bouche, j'ai pas du tout le physique. Enfin bon, voilà, c'était amusant, c'était aussi très éprouvant d'être maquillée pendant 4 heures, de ne pas pouvoir bouger.
Et puis c'est une comédie musicale, un genre très particulier. Il faut chanter, il faut danser.
Oui.
Ça vous a plu, ça?
Oui, ça m'a beaucoup plu, oui.
C'est une époque de votre vie. Vous avez fait combien d'heures de danse par jour pour vous préparer à ce tournage?
Oui, longtemps, des mois et des mois à s'entraîner, à... C'est surtout que le problème de la danse, c'est que là, contrairement à mon cours de danse où j'ai une petite planque où je ne me vois pas, là, on est obligé de se voir. Et c'est quand même un truc de passer 4 heures par jour ou 5 devant soi-même. C'est très
éprouvant. Ça ne doit pas vous plaire.
Non. Donc, l'entraînement, c'est on est devant un miroir tout le temps. Et quand même, jouer, c'est de ne pas se voir, c'est de ne pas être soi-même, c'est d'être quelqu'un d'autre. Donc, l'entraînement de danse, j'aurais préféré courir dans un jardin, faire de la boxe, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que tous les matins, déjà qu'on vit avec soi-même. Mais alors, quand le matin à 9h, on s'installe devant soi-même, on est obligé de se voir. Et les danseurs, c'est un truc très particulier. C'est qu'ils passent leur temps devant eux-mêmes. Ils se connaissent par cœur parce qu'ils se voient.
On se dit d'ailleurs que vous avez dû beaucoup changer dans votre rapport à votre corps. On a le sentiment que quand vous démarrez, quand vous êtes Lady Palace, vous vous en fichez complètement de ce à quoi vous ressemblez. Et puis progressivement, c'est devenu quelque chose d'important. Vous êtes devenue belle et on sent que vous vous regardez en vous appréciant
c'est
davantage.
C'est pas ça, c'est que je pensais n'avoir pas de contour.
Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de contour?
Je sais pas. Je me voyais comme un tas de quelque chose. Je ne me voyais pas avoir des formes, avoir des contours, avoir mes cheveux. Ils étaient plaqués. Je pense. J'ai connu plus tard l'intérêt d'avoir des cheveux, par exemple, ou d'avoir des formes, ou d'avoir des contours. Parce que je me voyais pas de dos, parce que je me voyais pas de profil, parce que je me bon, voilà, donc c'est sûr que la danse, on se voit. On est toute la journée devant, on corrige, on se regarde, on sait. Enfin voilà, et c'est vrai que quand on se voit, on se corrige. Les danseurs, ils sont de la chair à corriger.
Donc vous vous êtes regardé, vous vous êtes accepté, vous vous êtes corrigé et vous êtes devenue une autre Valérie Lemercier ?
Bah, disons que j'ai vu. Oui, puis on voit qu'on peut aller un peu plus loin, on voit qu'on peut être un peu moins gros, on voit qu'on peut. Enfin voilà, il y a un certain plaisir d'apprendre et de faire des progrès, on va dire, qui sont très difficiles parce que c'est pas comme une enfant danseuse qui fait 7 heures de danse par jour. Je suis déjà mûre, enfin bon voilà, donc c'est. Mais en tout cas, que quelque chose peut être mieux le lendemain que la veille. Donc quelque part, oui, j'aime pas l'école, mais apprendre, par exemple, au bout de 3 mois, on danse mieux qu'avant. Donc voilà.
Peut-être que progressivement, vous avez aimé de plus en plus ça, apprendre.
Oui, oui, oui. Et je demande à apprendre. Et j'aime apprendre. J'aime aussi dire que je ne sais pas. C'est pas grave. C'est très important. C'est pas grave de pas savoir. Je trouve que il faut pouvoir changer d'avis sur un film. Il faut pouvoir dire. Finalement, tu vas pas mettre ce pull là, même si on a eu du mal à le trouver, c'est pas ça.
C'est pas le bon costume.
Non, et cette scène, elle est censée être debout, c'est pas grave, on va être assis et ça va être comme ça.
Parfois, il y a des cinéastes qui se disent Valérie Lemercier n'est pas qu'une femme drôle et qui ont l'idée de vous confier d'autres genres de rôles, par exemple Claire Denis ou par exemple Valérie Donzelli. Vous avez aimé ces expériences-là ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux films ?
Oui, c'était.
Il y en a qui s'appelle Vendredi soir.
Disons que la grosse différence, c'est d'être quelqu'un de sexy ou c'est des rôles de femmes, si vous voulez. D'ailleurs, maintenant, il y a plein de filles très jolies qui sont drôles. Il y a plein. Avant, si on voulait faire rire, il fallait avoir un aspect de vieille fille ou de femme, en tout cas, non désirable. Enfin voilà, donc il fallait pas avoir de contours, on va dire, encore une fois. Et d'ailleurs, c'était difficile pour moi. C'était difficile, ces scènes-là. C'est difficile parce qu'on ne peut pas faire semblant d'embrasser quelqu'un. On est obligé de le faire vraiment. Donc, c'est des scènes, pour moi, c'est beaucoup plus difficile.
C'est beaucoup plus compliqué.
Oh, oui.
Vous y prenez moins de plaisir ?
Beaucoup moins.
Pourtant, vous l'avez dit, alors il y a aussi le film des frères Podaïdès, Adieu Berthe, où vous jouez la maîtresse de Denis Podaïdès qui vient de perdre sa mère. Et vous avez dit que c'était votre premier, votre premier rôle d'amoureuse. Parce qu'avant, vous étiez toujours soit la maman,
c'est
soit
pas
la
ça,
femme.
C'est que j'étais la femme officielle. Et là, j'étais la maîtresse, ce qui est plus marrant. C'est pas celle qu'on scoltine, on va dire. Enfin, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que c'était marrant tout à coup. Alors, après avoir été ni une femme du tout, puis après, forcément, la femme de quelqu'un, la mère des enfants, c'est plus marrant d'être la maîtresse, quelque part. C'est plus gratifiant à certains égards.
Est-ce que vous diriez que vous avez fait ces incursions dans ce qu'on peut appeler le cinéma d'auteur, quand on parle de Donzelli ou quand on parle des frères Podaïdès, pour vous prouver aussi que vous étiez devenu quelqu'un d'autre, puisque vous êtes en train de nous raconter que vous êtes quand même devenue une autre Valérie Lemercier?
Non, c'est eux qui ont voulu me voir là, et moi j'ai eu du mal à les faire. Et d'ailleurs, sans fausse modestie, je pense que je suis plus à ma place dans des comédies, parce que c'est pas si facile à faire, alors que ces rôles-là, d'autres auraient pu le faire mieux que moi.
Pour clôturer ce troisième épisode, il faut quand même qu'on parle de cette petite expérience du cinéma hollywoodien que vous avez eue quand vous avez joué dans Sabrina avec Sidney Pollack.
Expérience de petite.
Oui, mais quand même.
Non, mais ce qui est amusant, c'est que j'avais encore une fois passé des essais pour jouer. J'ai dû jouer 4 jours dans un film
de Sidney Pollack. C'est en 1995.
Malheureusement.
C'est le remake du film de Billy Wilder.
C'est le remake du film de Billy Wilder et qui, malheureusement, n'est pas du niveau de beaucoup de films de Sidney Pollack et de toute cine et de parce qu'il a fait des films incroyables. Mais ce qui est incroyable, c'est que je l'ai retrouvé plus tard.
Dans Fauteuil d'orchestre?
Dans Fauteuil d'orchestre où nous étions partenaires. Donc on se connaissait et c'est en plus un partenaire merveilleux. Et quelque part, je le connaissais déjà. Mmh. Donc,
mais c'est comment de se retrouver dans une grosse machine hollywoodienne?
C'est pareil. Franchement, on attend peut-être un peu plus longtemps. J'avais un tellement petit rôle, vous savez. On n'a pas l'impression. D'abord, ça se tournait à Paris, donc on est plutôt dans un tournage parisien avec des Français qui vous. Voilà. Mais moi, je pense qu'au contraire, les Américains, ils ont été capables de mettre comme vedette des gens comme Philip Seymour Hoffman ou des gens qui ont vraiment. Qui ne sont pas classiques, qui ont des physiques très particuliers, qui ont des.
Donc ils sont moins conventionnels au fond.
Beaucoup moins. Et ces gens-là, acteurs, ont émergé alors qu'ils étaient bizarres, donc je me suis. Voilà, j'avais pas du tout l'impression d'être dans une grosse machine, j'étais dans une toute petite loge avec un tout petit rôle. Et même, ce qui est très drôle, c'est que.
Il y avait Harrison Ford quand même.
Dans oui, mais je ne l'ai même pas vu. Et il n'y a même pas mon nom en générique, ils se sont trompés. Ils m'ont appelé le plus loin Mercier ou du Mercier ou je sais pas quoi, c'est même pas moi, donc peu importe. Et puis c'est pas le bon film de Sidney Pollack dans lequel j'étais.
Pour conclure.
C'est pas alors qu'il en a fait tellement à commencer par Tootsie qui est un de mes films cultes préférés. Voilà, donc c'est pas une expérience, c'est 2 jours de semi-figuration.
Pour conclure ce troisième épisode, Valérie Lemercier, est-ce que vous diriez que maintenant, au moment où vous en êtes dans votre carrière d'actrice, de cinéaste, etc., vous refuserez désormais ces rôles dans ce cinéma dont vous avez le sentiment qu'il ne vous correspond pas? Est-ce que vous fonctionnez par catégorie?
C'est pas ça, je ne fonctionne pas du tout par catégorie, mais je pense qu'il faut faire ce qu'on sait faire et enfoncer le même clou toujours un peu quand même. Et j'imagine un menuisier à qui vous faites faire de la cordonnerie, il ne saura pas forcément. Et si c'est faire un beau meuble, laissez-le. Ce que je veux dire, c'est que d'autres auraient sûrement fait ça mieux que moi. Moi, je mets au-dessus de tout la comédie. Je préfère être drôle dans une connerie pour la télé, dans un sketch, dans un machin, que de faire un film entier où je serais pas drôle.
Faire rire, ça n'a pas de prix.
Ça n'a pas de prix. Donc je mets ça au-dessus de tout. Et en même temps, j'ai adoré tourner avec Claire Denis et avec Valérie Donzelli. C'était très intéressant et c'était... Voilà, mais je me dis, si je vois le film, je me dis pourquoi moi.
Merci beaucoup Valérie Lemercier. On se retrouve demain. Mmh. Là, on était devant la caméra et demain, vous passez derrière.
Ok.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Aubry avec Valérie Lemercier. À voix nue. Réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son François-Ri Vallant, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.